C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
La campagne électorale tire à sa fin et je dois vous avouer quelque chose. J'ai songé à me présenter.
Non.
Ah oui, oui. À la base, il faut savoir que j'ai la scolarité pour diriger une province. Là, j'ai. Mais je sais pas si vous en avez déjà parlé. J'ai un bac en enseignement primaire.
On savait pas ça, non, on savait pas ça.
Je l'ai pas à l'UQAM. Je l'ai de l'Université Laval. Un bac à l'UQAM, tu peux pogner ça dans le Publisac. Fait que.
Wow!
Non,
je vais te laisser gérer les courriels.
Ouais. Mais non, mais c'est pas négatif, c'est un bac à l'UQAM. Mais mettons qu'on sait que l'école, c'est pas ta force. Non, je veux pas en rajouter. Ceux qui sont allés à l'UQAM comprennent ce que je dis.
Non.
Ils peuvent
non.
pas le lire, mais ils comprennent.
Ben, voilà, elle est allée là.
Non, mais arrêtez.
Ça part bien ta campagne.
C'est très bon. Envoyez-moi pas de texto qui dit « Hey, arrête de niaiser les gens de l'UQAM, les autres universités sont pas mieux. » Ben non, ils sont pas mieux, mais ils sont moins en grève. C'est juste ça. Puis by the way, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a eu son bac en éducation à l'UQAM. Tout est dans tout. Hein, ouais. Bref, ce que je veux dire, c'est que je suis plus scolarisée que 57 % des candidats conservateurs et je gagne un plus gros salaire que tous ceux de Québec solidaire additionnés. Indépendante de fortune à comparer aux autres. Donc, me présenter aux élections, ça aurait pu être le fun parce que je suis très, très bonne pour m'obstiner.
Ça, c'est vrai.
Vous le savez.
Ça aurait été très bonne.
Ici, en or, mais hier, je me suis poignée avec mon chum à propos de qui devrait vider la vaisselle.
Oh. Okay.
J'ai gagné.
Ah oui, hein?
J'ai dû révéler des choses à ma fille Jeanne. Elle a beaucoup pleuré, mais j'ai pas vidé de la vaisselle. Je suis aussi, autre affaire qu'il faut avoir en politique, une très bonne menteuse. Dire de la bullshit, c'est une passion. J'aime ça. Martin, demande-moi comment je te trouve.
Comment tu me trouves, Tammy?
Super bon. Hein? Je te trouve le fun, Martin. T'es rapide et talentueux.
Ben
bon, est-ce que tu penses que je le pense vraiment, Martin?
Ça a des limites, hein? Non, je pense pas.
Ouais, c'est ça que je disais. Je mens, je dis la vérité. On le sait plus. On le sait plus, Martin. Et j'adore le Parlement. C'est là, hein, quand t'es élu, c'est au Parlement?
Oui.
Moi, passer du temps là-bas, ça me ferait plaisir. Entre une journée au Parlement ou une journée à Walt Disney, mettons, je choisis le Parlement sans hésiter. Oui, je bullshit bien. Mais je me suis pas présentée finalement, vous le savez.
Ben non,
oui,
c'était là.
Je suis là, exactement. Je pourrais pas parler à la radio. On me donnerait pas du temps.
En campagne.
Exact.
En train de faire de la rage au volant avec un autobus.
Ben, c'est ça. Je me suis pas présentée parce que les comptes ont pesé fort, Billy. D'abord, j'ai un casier judiciaire pour rage au volant ou voix de fait. Ou les deux, je sais pas si j'étais saoule.
Ben voilà.
Je vous cacherai pas que j'ai aussi quelques squelettes dans mon placard. Ben. Littéralement, j'ai deux squelettes dans mon placard. Une prof de primaire, ça avait mal viré. Dans un débat, je prendrais tout personnel, en plus, vous me connaissez. Je finirais en colère à arracher les wipers de celui qui m'a coincé parce que mon budget balance pas. Hey, le crédit, ça a pas été inventé pour les chiens, ça, le crédit, même si ça balance pas, je veux dire, tu te vires vers le crédit. Moi, j'ai accès au crédit, j'ai pas étudié à l'UQAM, de toute façon. Tout ça pour dire que je serai pas sur vos bulletins de vote lundi. Non. Vous aurez les dirigeants que vous méritez. Puis je gage un 10$ que ce sera pas quelqu'un de l'UQAM.
T'es comique? De retour après ceci.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Vous le savez, depuis quelques jours, depuis deux jours, en fait, c'est intense, entre autres, à Fort Myers, la côte ouest de la Floride, qui est happée de plein fouet par l'ouragan Ian. Il y a des crues des eaux de 3 mètres qui ont été enregistrées, des dégâts innommables et innombrables.
C'est particulier parce que tous les gens qui nous entendent actuellement puis qui ont un proche qui vit en Floride, nous, on le vit à travers nos proches, à travers l'inquiétude que l'on peut avoir. Puis moi, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec mon papa qui habite là-bas depuis de nombreuses années. Finalement, il va très bien, là, mais je voulais quand même qu'on lui parle ce matin pour savoir comment ça se passe en Floride. Allô, papa?
Ben, salut, ma belle amour. Salut, l'équipe.
Salut.
Merci d'être là.
On peut t'appeler Kirk?
Oui, c'est ça.
Oh, absolument, mais mon vrai nom, c'est Captain Kirk.
Hey, mais pour vrai, c'est pas la première fois qu'on se parle lors d'un ouragan. Je me souviens pas le nom duquel, il y a 2-3 ans, on s'était parlé. Est-ce que vous êtes quand même frappé, même si vous n'êtes pas dans l'œil du cyclone à Miami, Kirk?
Oui, on était frappé quand même. Mais écoute, je peux te dire que les premières choses qui arrivent quand un ouragan s'en vient, ce qui est le plus stressant, c'est qu'en fait, semaine passée, ça passait à Cuba. Okay. Un coup que ça a passé à Cuba, là, on n'était pas sûr si c'était pour arriver à Miami ou c'était pour aller plus au nord. Donc, c'est toujours le stress de savoir où est-ce que ça va aller. Mais tu as raison, mon homme, c'était dans Irma qu'on s'était parlé de le dernier ouragan.
Et là, vous avez barricadé votre maison, rien de moins. L'habitez-vous, votre maison? Ou comment ça se passe, là, pratico-pratique?
OK. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde justement les prévisions pour savoir si c'est un ouragan 2, 3, 4, 5. Et là, évidemment, on décide qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on barricade la maison? Est-ce qu'on s'en va? Est-ce que... Dans ce cas-là, ici, c'est sûr que ça va tourner un peu vers l'ouest. Donc, on était pour avoir un ouragan 3. Donc, comme tous les autres Floridiens, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé pour barricader tous mes fenêtres.
Okay.
Je me suis assuré que mon générateur fonctionnait comme il faut,
ben oui,
que j'avais assez de bouffe dans la maison. Et surtout, assure-toi que tu as au moins 2-3 caisses de bière qui est prête.
OK, fait que ça devient, quand vous savez que ça va pas sur vous, la pression descend, mais quand même, c'est vos voisins Fort Myers, c'est pas tellement loin, ça cause des dégâts. C'est sûr que vous êtes empathique. Est-ce que vous en avez des effets chez vous de ce qui se passe à Fort Myers?
Absolument, parce que l'ouragan comme tel, si on regarde de l'est à l'ouest, la dimension de l'ouragan était de 804 kilomètres de distance.
Incroyable.
Donc, si on regarde que Fort Myers est à 186 km d'ici, ça veut dire qu'ici à Miami, c'est sûr qu'on va avoir des répercussions de ça. Donc,
mais
moi,
oui,
j'ai passé la nuit de mardi quasiment debout toute la nuit parce que on a des ouragans, excuse-moi, on a des vents d'ouragan qui rentrent ici. Mm-hmm. Et aussi, on a eu à peu près 6 tornades dans l'ouest, dans le sud de Floride. Donc, je voulais m'assurer, évidemment, qu'on était correct. Même que j'ai couché dans le salon avec ma femme. Ouais, tu veux que tout le monde soit correct et qu'on n'aura pas de problème.
Oh, ben oui. C'est quand même particulier comme situation, tu sais, parce que nous, évidemment, mon père.
Il y a des
moi,
alarmes.
Il y a des alarmes. Nous, on se texte sans arrêt pour être sûr. Il m'envoie des photos puis des vidéos pour montrer à quel point c'est la débandade. Mais là, tu sais, là, papa, l'ouragan, c'est pas terminé. Là, tu m'expliquais. Il reste sur place en Floride.
Mm-hmm.
Ouais, c'est ça. Exact. Pendant quoi? 2 jours?
Ben, faut que je vous dise, oui. Ici à Miami, on a eu la pluie pendant 2 jours, quasiment un petit peu plus que 2 jours, même qu'aujourd'hui, c'est encore du vent, qu'on a encore de la pluie.
Okay.
Mais les pauvres gens de Fort Myers puis de Coral Cay, dans ce coin-là, mm-hmm, malheureusement, eux autres ont eu la catégorie 4, que les vents, puis je vais vous faire un parallèle juste pour le fun. Si on conduit à 100 km/h puis qu'on sort notre main dehors de la voiture,
ouais,
on sent justement la force du vent, right?
Oui.
Okay. Si le vent est de 305, de 250 à 305 km/h pendant 9 heures constants, imaginez-vous ça.
C'est le trip
bon
de ce qu'on ressent,
ben oui,
puis ça arrête pas, ben, ça arrête jamais. Hey, l'image est très, très claire.
Et en comparaison, là, qu'est-ce qui a fait le plus de dégâts? Je dirais l'ouragan ou l'adolescence de Valérie?
C'est comparable.
C'est définitivement de Valérie, ça, c'est sûr.
Valérie était à stade 4, comme disait. Hey, Kirk, on vous embrasse.
Merci,
faites
papa,
très attention à vous, puis on se garde au courant. Ouais. Et garder le moral, c'est parfait.
Il n'y a pas de problème, mon homme. On a toujours le moral ici en Floride.
All right. Merci beaucoup. Merci. Kirk Roberts, le père de Valérie. Tu peux continuer un petit peu sur la ligne à côté.
On va aller
en circulation.
T'es comique? De retour après ceci.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Ça a beaucoup fait jaser les déclarations, entre autres, de Jean Boulet. Alors, on se rappelle en début de campagne, je veux commencer chronologiquement, François Legault, dans une déclaration concernant l'immigration, qui avait dit, il avait parlé de violence inhérente à l'immigration. On se souvient du tollé que ça
avait... Il y a 2 semaines.
Il y a 2 semaines, à peu près, ou trois, peut-être ouais, 3, là, au début de la campagne. Et donc, ça avait provoqué beaucoup de réactions. Hier, une déclaration qui est arrivée la semaine dernière dans un débat en mort ici de la part de Jean Boulet, qui se présente à Trois-Rivières avec d'autres candidats dans cette région-là. Une déclaration malheureuse sur l'immigration. On l'écoute tout de suite.
80 % des immigrants s'en vont à Montréal, travaillent pas, parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise.
Ça, c'est la déclaration qui a fait surface hier, donc, dans l'actualité. Et après ça, François Legault lui-même est allé aussi d'une déclaration sur l'immigration, qui porte à confusion.
Je pense que pour la nation québécoise qui veut protéger le français, ça serait un peu suicidaire d'aller augmenter. Puis, moi, mon objectif, là, puis...
Dans un sauna?
Il était devant la Chambre de commerce du Grand Montréal hier, donc Montréal métropolitain. Donc, c'est un rassemblement de gens d'affaires. Puis, il expliquait son programme. Où est-ce que moi j'en ai ce matin concernant M. Boulet et M. Legault, que je mets dans la même phrase ce matin? C'est à cause du rôle qu'ils incarnent. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes premier ministre du Québec, encore en fonction jusqu'à l'élection, probablement le prochain aussi, selon ce que disent les sondages, vous pouvez pas utiliser des mots sans faire attention à l'usage de ces mots-là. Quand vous prenez
surtout que c'est faux, hein, ce que dit M. Boulet, là, c'est faux. Ben, 80% c'est faux.
Exactement.
Dans la presse, on le voit ce matin, qui ne travaille pas, c'est faux. Qui ne parle pas français, c'est faux.
C'est un amalgame qui a été fait donc par Jean Boulet, qui par ailleurs, je dois le dire, c'est un des ministres très efficaces de la CAQ depuis le début. Personne, les analystes politiques hier comprenaient pas qu'une déclaration comme ça ait été faite. Mais quand t'es ministre de la solidarité, de la solidarité sociale, de l'emploi et du travail, donc le dossier de l'immigration, tu peux pas faire cette erreur-là, ben malheureusement. T'es tenu à une infaillibilité dans le choix de tes mots. Puis t'es le ministre et le premier ministre, dans le cas de François Legault, de tous les Québécois, ceux qui arrivent depuis 2 jours, puis ceux qui sont là depuis 2000 ans, tu comprends? Puis ça, hier, c'est le défaut qu'ils ont fait, les deux. Les deux ont manqué à leur fonction, ils ont manqué de grandeur. Puis quand t'es le ministre de l'Emploi puis du Travail, puis je le dis, il y a un parcours irréprochable, Jean Boulet, pour moi, dans sa fonction de ministre. Mais ça... Comme François Legault a dit, il se disqualifie. T'es le gardien de quelque chose de plus grand que toi, de plus grand que ton parti, de plus grand même que le peuple québécois. Parler de suicide de la nation, il y a des mots qui se disent pas publiquement quand t'es premier ministre. Moi, je pense à Robert Bourassa. Je pense à Lucien Bouchard. Je pense à tous les grands premiers ministres qu'on a eus. Puis là, je suis au Québec, là. Jamais il aurait parlé de suicide. Il aurait parlé de défis. Il aurait parlé de danger, peut-être. D'enjeu.
Oui.
Mais suicide, quand t'es premier ministre moi, je trouve que c'est irresponsable. Quand t'es le ministre de l'Emploi, du Travail puis de l'Immigration, come on! T'es obligé d'être parfait.
Ben oui.
Il l'était pas. Sais-tu quoi? Va-t'en.
Tu peux pas dire n'importe quoi. Yves Boisvert, dans la presse ce matin, il dit, puis son image est bonne, imaginons un ministre de l'Éducation qui connaît pas la différence entre école primaire et secondaire. Un ministre des Transports qui confond un aéroport et un autoroute.
Oui, c'est ça.
C'est la base même de ce sur quoi il travaille, notre ministre.
Puis l'autre affaire.
Connaît pas.
Puis l'autre affaire.
Fait que leur fameux seuil, là, tu sais, permettons-nous de penser que c'est basé sur rien.
Ça, c'est un autre débat, puis ça se défend. Tu comprends-tu?
On est, oui, mais si c'est basé sur des fausses croyances.
Non, mais il y a quand même une capacité maximale à un moment donné, on doit être capable d'en débattre. Moi, mon point ce matin, c'est quand t'es le responsable, t'es le gardien de quelque chose, t'es le gardien de l'équilibre, en plus que c'est un sujet qui est chaud, en plus que c'est un sujet clivant, en plus que c'est un sujet avec lequel tu pourras faire, ironie, de la wedge politique. Tu pourrais provoquer tes électeurs ou ceux qui votent contre toi en parlant de cette manière-là. Mmh. Pour vrai, moi, je trouve que c'est de la politique d'égout. Vous êtes capable de plus que ça. Vous êtes tenu à plus que ça quand t'es ministre et premier ministre. C'est mon opinion, par exemple.
J'en connais qui ont hâte à lundi.
Oui.
Ils doivent trouver que la campagne s'étire.
C'est un sujet sensible pour vrai. Puis tu peux pas en parler comme un bûcheron. Puis tu peux pas en parler comme un gars de fond de shop. En tout égard, avec les gars de fond de shop, ta fonction te commande une élévation qu'il y avait pas hier. Puis que t'as pas depuis le début. Puis comme je te dis, je suis déchiré parce que c'est un des rares ministres efficaces dans la CAQ, mais Christy, avec le tag que t'as sur ton épaule, t'es obligé d'avoir le cœur en dessous du tag aussi. Puis ça, pour vrai, c'est inacceptable.
Le podcast Debout les comiques.
Le waiting.
Le waiting mode, le mode attente, c'est quelque chose de un terme que j'ai appris hier, mais que je fais depuis toujours. Je donne un exemple. Par exemple, je me lève un samedi matin parce que j'ai pas de radio. Je me lève et je sais qu'à 14 heures, j'ai rendez-vous chez mon coiffeur.
OK.
Je vais comme être paralysée et dans l'attente de ce rendez-vous à 14 heures.
C'est comme si tu avais un drapeau au loin.
Je le sais que à 14 heures, je vais me rendre chez mon coiffeur, ouais. Mais d'ici à ce moment-là, je ne peux pas entreprendre une autre tâche. Je ne peux pas même écouter un film. Des fois, c'est compliqué parce que je pense au fait que j'ai ce rendez-vous-là. Puis là, je vais vouloir comme être sûre d'être allant, puis être sûre de pouvoir y arriver. Mm-hmm. Je peux pas faire des courses. Je peux pas aller m'entraîner en me disant, tu sais, même s'il est 10 heures le matin. Je suis en mode attente, en waiting mode.
Ça me fait ça quand j'ai des shows, quand j'ai des spectacles.
Même aussi. On dirait que je veux me préserver.
Théâtre le soir.
Tu sais, il y en a qui font, hey, je vais aller souper avec des amis, je vais aller faire... Moi, c'est comme non, j'ai un show ce soir, il est comme là.
Écoute, il y a un texte vraiment intéressant qui est sorti et qui dit, premièrement, ce waiting mode-là, c'est proche de la procrastination.
Ouais,
la
vraiment.
Procrastination, qui est l'idée qu'on remet tout au lendemain, à plus tard. Fait qu'on n'est pas super loin, mais dans le waiting mode, il y aurait aussi une espèce de peur de l'échec ou une peur du regard des autres, qu'on n'arrive pas à temps, qu'on ne soit pas capable de le faire de la bonne manière lorsque cet événement-là dans notre calendrier va se passer. Ce qui fait en sorte qu'on se différencie quand même de la procrastination, mais ça n'est pas... C'est pas moins important dans la vie de plein de monde au quotidien puis dans la vie des proches aussi parce que c'est vraiment comme si, c'est ce que les psychologues expliquent, la place mentale est vraiment est plus disponible
non, je
parce
sais.
Qu'elle est en train d'attendre. Mm. Elle va se rendre disponible pour l'événement.
Tu nommes quelque chose que je vis depuis tout le temps. Puis les shows, c'est flagrant pour nous autres. On dirait que parce qu'on a ça, c'est comme un objectif dans le soir. Puis on a l'impression qu'on se préserve notre énergie. Mais pour vrai, j'ai le phénomène contraire. C'est-à-dire que des fois, je vais avoir de quoi... Puis parce que je vais trop attendre pour aller là, je vais me mettre plein d'affaires avant pour tuer ça. Puis c'est comme inconscient, mais je vais devenir le contraire de procrastiner. Oui. Je vais tout régler mon automne en un avant-midi, mettons, pour avoir l'esprit tranquille à 2 heures, mettons.
Tu vois, ce qui explique dans l'article, c'est que plus l'événement est stressant, et là, les autres, ils disent un entretien d'embauche, un rendez-vous amoureux, un rendez-vous médical, plus ça mobilise ton énergie. Puis plus tu as besoin de temps pour te préparer et plus souvent, il y a des gens qui vont activer le mode attente. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions qui vont pouvoir nous aider. Je vais vous en reparler tantôt, mais avant ça, je veux absolument vous entendre.
Très
je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'avaient jamais réalisé qu'ils bloquaient des affaires dans leur journée en attendant un événement puis que là, ils viennent de catcher ça. Fait que appelez-nous au 7514-790, c'est quoi, 790-2564. Écrivez-nous au 96-9-96-9. Comment ça t'affecte? Puis des fois, pendant combien de temps? Ça peut t'affecter.
Mais là, on n'en parle pas là, fait qu'il va falloir j'attendre.
Le podcast Debout les comiques.
Je pensais pas que ça ferait réagir c'est autant le mode waiting, Valérie.
Oui, mais c'est parce que ça arrive dans nos vies au quotidien, puis on s'en rend pas compte, on n'avait pas de nom pour ça, puis là, je l'ai le nom, c'est le waiting mode, le mode attente. Quand t'as un événement, mettons, en mi-après-midi, puis d'ici à ton rendez-vous, tu n'es pas capable de faire quelque chose.
Puis tu t'empêches de le prendre pour plein de mauvaises raisons. En fait, on va aller au téléphone parce que...
Ta tête est faite pour ton événement.
Il y a Sophie qui est déjà là. Salut, Sophie.
Bon matin.
Sophie, toi, ça résonne ce matin, ce sujet-là. Tu fais toi-même du waiting, c'est ça?
Oui, en fait, moi, en plus de ça, j'ai un trouble d'anxiété généralisée.
OK.
Puis, dans le fond, moi, mes symptômes sont causés fois 3, mettons, quand je fais du waiting.
OK.
Exemple, quand c'était les premiers jours d'école, quand j'étais plus jeune, je faisais une crise. Un rendez-vous pour une nouvelle job, je faisais une crise. Ça m'affecte beaucoup physiquement et mentalement. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que tous mes muscles, excusez-moi, se contractent énormément. Ça fait mal.
Mm.
Puis une fois que la crise est terminée, je suis épuisée, j'ai mal partout.
Ah, c'est sûr.
Ouais, mais
puis la majorité du temps, ben je me pointe pas à mes rendez-vous.
Ben oui, mais tu vois, Sophie...
C'est handicapant, par exemple.
Le waiting mode, le mode attente, est plutôt courant chez les gens qui ont déjà un diagnostic de TDAH.
Et
si
t'as
un trouble obsessionnel compulsif ou encore si t'as un trouble anxieux généralisé, souvent, le waiting mode est plus fort. Incroyable.
Hey, merci, Sophie, puis bonne chance pour la... Je sais pas si t'as des outils pour passer à travers, mais on te le souhaite que ça s'atténue lentement. On t'embrasse, Sophie.
J'ai fait des thérapies, donc oui, je suis
moi aussi. OK, merci. Très cool. Merci, Sophie, ton partage.
Bye-bye.
Il y a Mathieu Brochu qui nous a écrit sur la messagerie texte qui dit « Valérie, tu viens de décrire mon dimanche.
C'est ça.
Dans l'expectative que tu vas travailler lundi, ah, tout ton dimanche est mobilisé. Moi, c'est ça. Puis je me rends compte que je viens de comprendre mon père. Mm. Mon père, le dimanche, mon Dieu, que c'était plate avec lui. Parce que lui, il était stationné pour son lundi.
Faire des activités le dimanche, moi, ça me mélange complètement.
C'est fou, hein? Ben j'aime ça ce que Mathieu dit. C'est ça.
Andréane est au téléphone. Elle vient de réaliser quelque chose dans sa vie. Salut, Andréane.
Bonjour.
Andréane, on vient pas de te diagnostiquer, nous autres, là, matin. Là.
Ben, un peu, en fait. Ben, je viens d'entendre Valérie dire que ceux qui souffrent d'anxiété, moi, j'en fais. Puis, tous les petits détails, là, ça me demande un effort. Donc, que ce soit, je dis, je sais que je serai pas nécessairement bien, que j'aurai pas un bon sommeil, ben là, je reporte le temps d'aller au dodo ou j'attends en attendant d'aller au lit. Quand je suis en congé, je dois attendre mon fils revenir de l'école. Ben dans l'après-midi, je ferai pas grand-chose parce que je veux être sûre d'être là puis je veux être disposée à le recevoir. Donc, tous ces petits moments-là font que j'attends tout le temps. Je pensais que j'étais vraiment quelqu'un qui procrastinait justement, mais finalement, je me rends compte que c'est peut-être ça.
Ça provoque ça, mais c'est clair que c'est ça. Mais je peux pas diagnostiquer à distance. Mais ça me fait le même effet ce matin.
Oui, on dirait que
ça explique plein de moments de ma vie. Andréane, on t'embrasse. Merci d'avoir téléphoné. C'est apprécié.
Merci.
Merci à vous.
Il y a quand même une solution, Valérie.
Oui. Arrête de dire, il y en a deux, OK? De manière pas concrète, juste le fait de réaliser que tu es en train de faire ça. Donc là, aujourd'hui, vous mettez un terme là-dessus. C'est le mode attente. « Ah, mon Dieu, aujourd'hui, je suis en mode attente. » Juste ça peut t'aider à être capable de reprendre un peu certaines activités.
De déjouer.
Oui, parce que tu le déjoues. L'autre manière de déjouer ça, c'est vraiment concret, c'est l'action. Donc, par exemple, tu lâches prise, mais surtout, tu réalises que mon rendez-vous est à 14 heures. J'aurai besoin de 30 minutes pour m'y rendre, donc à 13h30. J'aurai besoin de 30 minutes pour me préparer, donc à 13 heures. Et donc, aujourd'hui, à 12h30, j'ai une alarme et concrètement, je me prépare pour ce rendez-vous-là. Ça, de booker des journées, des plages horaires, paraît que ça aide à laisser aller ce mode attente.
Hey man, pour vrai, merci chère Valérie et merci à vos nombreuses réactions sur la messagerie texte.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.